Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec pour débriefer l'actu en ce jeudi soir, Salim Nassur est avec nous. Salut Salim. Salut. Fondateur de Mars, ex de chez Google. Et à ses côtés, c'est Alexandre Lebrun qui est avec nous. Salut Alexandre.
Bonsoir.
Co-fondateur et président de Nabla et ancien chercheur en IA chez Meta. Google Meta, ouais, tout va bien.
On est bien.
Vous faites des bisous maintenant. Bon,
non, mais on peut faire des checks. Allez.
Voilà, un check entre un ex de Google et un ex de Meta.
Ouais, mais t'as bien dit ex, c'est pour ça.
Oui, c'est pour ça. Alors, je suis sûr qu'il y a des checks quand même aussi, oui, entre des salariés des deux boîtes. Et Jérôme Marin est avec nous. Salut Jérôme.
Salut François.
Check. Voilà, on peut, nous, fondateur de la newsletter cafetech.fr. Voilà, un joli casting ce soir pour commenter l'actu avec plein de sujets passionnants. Vous savez que c'est vrai que dans le domaine des puces, l'Europe est un peu à la traîne. Alors, on a STMicro, hein, qui est une belle boîte, mais on a surtout ASML qui a énormément d'importance, hein, aujourd'hui pour fabriquer des processeurs. La plupart des fondeurs sont obligés de passer par ASML. C'est une boîte européenne qui a failli quitter les Pays-Bas, mais qui visiblement va y rester. On va y revenir. On s'intéressera aussi à ChatGPT, je le disais tout à l'heure, qui pourrait causer des échecs scolaires. LinkedIn qui veut concurrencer TikTok. Et puis la Floride qui veut interdire les réseaux sociaux au moins de 14 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est possible, tiens? Parce qu'au-delà de ça, dire interdire les réseaux sociaux, après, il faut quand même les moyens pour pouvoir les interdire. Mais pour débuter, donc, Amazon, voilà, on ne présente plus Amazon, qui, depuis quelques mois maintenant, injecte beaucoup d'argent dans Anthropic. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls, hein. Je crois que Google aussi a mis au pot. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon a fait un deuxième investissement de 2,75 milliards de dollars dans cette boîte. Et on se pose la question, pourquoi Amazon investit t-il ou tel autant dans Anthropic, qui est, on va dire, la pépite de l'IA en ce moment, hein. C'est vrai que tout le monde parle d'eux. Claude est, paraît-il, encore plus performant que ChatGPT. Donc il y a une vraie, c'est un peu le Mistral américain, hein, Anthropic. Ouais. Hein.
Sauf que c'est pas open source, c'est plutôt.
Pas open source.
Mais Mistral n'est plus open source.
Enfin, il y a une partie open source, ouais. C'est une partie.
Anthropic, c'est un peu le troisième gros acteur du marché entre, ouais. Donc il y a OpenAI, il y a Google, et donc il y a Anthropic. Amazon n'est pas chez OpenAI puisqu'ils sont avec Microsoft. Ce n'est pas chez Google parce que c'est Google. Et donc, il reste le troisième larron, c'est Anthropic. Donc, ils investissent. Donc,
mais ce qui est rigolo, c'est que Google investit dans Anthropic.
Et Google a déjà investi dans Anthropic.
C'est ça qui est fou.
Mais l'idée d'Anthropic, c'est de ne pas avoir d'exclusivité. Voilà, ils vont chercher de l'argent, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Ils ont pris 4 milliards chez Amazon, ils ont pris 2 milliards chez Google. Sachant que ce n'est pas du cash. La plupart de cette somme, c'est des crédits cloud, c'est-à-dire pour utiliser le cloud AWS ou le Google Cloud pour entraîner les modèles. Mais bon, ils ont besoin d'argent. Et Amazon essaie de s'acoquiner un peu ou de s'allier avec Anthropic pour pouvoir concurrencer Azure et Google Cloud qui ont pris de l'avance dans l'IA, dans le cloud.
Ce qui est intéressant, c'est que Anthropic, c'est pas n'importe qui, hein, qui est à l'origine de cette boîte-là, hein. C'est des anciens d'OpenAI qui sont partis, qui ont lancé Claude, je le disais tout à l'heure, qui est un très bon large language model. Vous avez testé Claude ou pas? Moi j'ai essayé, on peut pas, ça marche pas en France, il faut.
Au début tu pouvais, puis maintenant tu
voilà,
peux plus.
Voilà, tu peux plus maintenant. Enfin, il paraît que c'est meilleur que ChatGPT dans certains.
Tu peux l'avoir
domaines.
En version payante parce qu'il te faut une carte américaine. En fait, ils ont bloqué. À un moment j'avais, et puis ils m'ont squeezé. Même si tu passes avec un VPN, ça marche plus parce que t'as
ouais, c'est
compte
clair.
Américain.
Qu'est-ce que ça donne? Vous avez testé ou pas?
Personnellement, je pense que Claude est inférieur à GPT-4,
okay.
qui est le ChatGPT. Sur les benchmarks, sur la plupart des benchmarks qui battent GPT-4, mais attention, parce que GPT-4 a été conçu il y a déjà 2 ans maintenant. Il est sorti il y a moins de 2 ans, mais il a été entraîné il y a 2 ans. Et beaucoup de ces benchmarks ont été faits après la sortie de GPT-4. Et après, c'est facile, si je sors un LLM maintenant, de le suroptimiser pour battre pour ces benchmarks. Et donc, il ne faut pas oublier que GPT-5 va sortir sans doute pendant l'été. Donc, on compare à quelque chose qui a 2 ans et qui a été entraîné avant les benchmarks. Donc, personnellement, d'autre part, nous, on a testé sur notre use case de médical, donc vraiment sur le produit lui-même, la comparaison GPT-4 et Claude, le plus gros des modèles de Claude, Opus, et GPT-4 reste supérieur. Et moi, ce que j'entends des startups autour de moi qui utilisent LLM dans les vrais produits sur le terrain, c'est que GPT-4 reste meilleur. Donc, personnellement, je suis un peu sceptique sur,
oui, dubitatif sur, le, sur la supériorité de Claude,
Opus
face à ChatGPT. Les benchmarks, on peut, comme tu disais, on peut facilement les,
ben oui,
les manipuler. Donc,
comme tous les benchmarks.
Et de toute façon, c'est pas public. C'est, après, il faut les croire. Hein. C'est les chiffres qu'ils donnent, il faut croire que c'est vrai ou pas. Donc,
mais il y a une petite fonctionnalité, je sais pas si.
Oui,
après, je te donne la parole, Salim, bien sûr. Mais il y a une fonctionnalité qui est très sympa sur Claude. C'est quand vous voulez faire corriger des textes. Parce que Claude parle en français, hein, bien évidemment. Il corrige les fautes d'orthographe. ChatGPT le fait très bien aussi. Sauf que Claude vous dit pourquoi vous avez fait une faute. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'il va vous mettre le contexte de la faute pour que vous puissiez ne peut-être pas la reproduire la prochaine fois. C'est plutôt pas mal.
Là où je te rejoins, en fait, c'est sur. Enfin, je vous rejoins tous les deux sur le fait qu'on puisse faire dire ce qu'on veut au modèle. Après, la réalité, c'est que faut pas qu'on rentre dans cette comparaison, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y aura un nouveau modèle, ben, il sera supérieur à l'autre. Donc, comme tu dis, il y aura ChatGPT 5, puis après, tu auras Claude 4. Donc, il y aura toujours un moment où il y en aura un qui sera supérieur à l'autre. Après, il faut regarder au niveau des usages. Ce qui est intéressant quand même, et j'ai lu ça, je l'ai pas testé, mais j'ai lu sur Claude, versus GPT 4, c'est le test de la botte de foin. Je sais pas si vous voyez le test de la botte de foin, c'est l'aiguille dans la botte de foin. Et ils ont fait ce test-là avec Claude, et apparemment, c'est assez bluffant. Ils lui ont mis, et ça, tu sais, un test que tu fais souvent avec des LLM, et tu prends un grand corpus de données comme ça, et tu changes, et tu mets une phrase qui n'a rien à voir avec le contexte. D'habitude, donc, GPT le fait, Gemini 1.5 maintenant le fait. Imagine, tu prends deux bouquins, et tu remets une phrase qui n'a rien à voir. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait avec Claude, ils ont mis une phrase sur des pizzas, par exemple, qui n'a rien à voir avec le truc. Et ce qui était impressionnant avec Claude, c'est que ils ont ressorti, enfin, il lui a répondu, j'ai noté la phrase, c'était fou. Je soupçonne que ce fait sur la garniture de pizza a peut-être été inséré comme une blague ou un test pour voir si j'y prêtais attention. Et là, en fait, tu vas un petit peu plus loin. Ouais. Parce qu'il dit pas juste, c'est la phrase qui est sortie. Donc, sans rentrer dans le côté sentient, et il a une conscience. Mais quand même, tu te dis, il a repéré que tu es en train de le tester. Et là, tu t'es passé quand même à un niveau au-dessus d'un ChatGPT 4 qui ne sait pas faire ça aujourd'hui. Tu vois, mais en effet, on verra ce que fera le 5. Donc bon, et puis après, juste pardon, pour revenir sur ce que tu disais, sur ce qui est intéressant de voir, c'est et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, moi, ce qui me tue, c'est ce que font les grands hyperscalers à la Google, à la AWS et à la Microsoft, comme tu disais, chacun a le sien aujourd'hui. Mais c'est un peu comme si tu avais une centrale nucléaire, et c'est un peu ça en fait, et qu'à chaque fois qu'il y a une entreprise qui se crée pour utiliser de l'électricité, tu prends des parts dedans pour qu'ils puissent utiliser de l'électricité, et à chaque fois tu gagnes parce qu'ils te payent, et tu gagnes parce que les clients de cette boîte-là te paient. Donc ils sont en train de montrer un espèce de truc assez pharaonique, dans le sens où ils vont gagner sur tous les tableaux, en fait. C'est pour ça qu'ils investissent beaucoup dedans, parce qu'il y a beaucoup à récupérer.
Et sur les 4 milliards, il y en a sans doute une grande partie qui va revenir directement à AWS sous forme de...
Mais évidemment.
Qui ne partiront même pas, en fait.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un bon business, si tu veux.
Ce qui est intéressant, c'est pour Amazon et pourquoi ils investissent dans Anthropic, dans le deal, en fait.
Ils n'ont même pas de siège au conseil d'administration.
Non, c'est pas important, en fait. Et en fait, ça. C'est aussi parce qu'ils veulent éviter OpenAI et Microsoft. Microsoft n'a pas de siège à OpenAI parce qu'il y a la FTC, donc le gendarme de la concurrence. Et là, il dit, si vous avez un siège, est-ce que vous exercez du contrôle parce que vous êtes très important? Donc, c'est aussi pour des raisons d'antitrust. Mais dans le deal entre Amazon et Anthropic, il y a aussi ce qui est intéressant, c'est qu'Anthropic déjà va entraîner Claude sur AWS et va surtout utiliser les puces d'Amazon. Donc, Amazon a deux puces qui s'appellent Inferentia et Trainium, qui sont des puces un peu les rivales de Nvidia, mais
Nvidia.
Beaucoup moins puissantes aujourd'hui. Et elles ont un peu un manque de légitimité, de crédibilité. Donc ça permet à Amazon aussi d'apporter un peu de crédibilité à leurs efforts sur les puces, pour que les clients d'AWS utilisent ces puces à Amazon plutôt que les puces d'Nvidia qu'Amazon doit payer, en fait, doit payer très cher.
Ouais, mais enfin, moi, je suis Anthropic, j'ai pas envie d'utiliser des puces Amazon si elles sont moins bonnes que celles d'Nvidia, non?
Mais bon, à mon avis, ils utiliseront les deux. Hein.
Oui, mais quand on te dit, tu fais une économie de 2 ou 4 milliards de dollars en utilisant nos... Ça se raconte, tu vois. Sinon,
ouais, ça se raconte, tu les as pas. Mais si tu n'arrives pas à obtenir tes buts parce que tu as moins de puissance de calcul ou moins efficiente...
Revendez qu'aujourd'hui, ils y arrivent.
Mais les puces les plus performantes, tu n'en as pas besoin pour tout, en fait.
Oui,
donc, tu as certaines tâches que tu peux faire avec des puces moins performantes, et avec les puces d'Amazon, ça devrait aller. Après, je pense qu'ils ne vont pas détériorer l'expérience, leur LLM, pour utiliser les puces d'Amazon, mais en tout cas, officiellement, ils vont utiliser les puces d'Amazon. Peut-être
Est-ce que, parce que vous savez que Alexa va être mise à jour, je crois que c'est déjà le cas aux États-Unis, il a été mis à jour avec de l'IA générative, donc il est un peu plus intelligent que le précédent, et on arrive à avoir des discussions à peu près cohérentes avec lui. C'est Anthropique ou c'est un autre système là que Amazon a mis en place, je ne sais pas.
Je pense pas que ce soit Anthropique encore. Enfin,
j'ai posé une colle globale.
C'est ça. Là, tu nous as eu.
Ben voilà, mais je me suis même fait moi avoir en fait, parce que je devrais avoir la réponse.
Mais je reviendrai.
On reviendra.
I'll be back.
Et on va analyser tout ça. Dans l'actu, je le disais aussi, ASML et les Pays-Bas tentent tout pour le tout actuellement pour conserver ASML sur son territoire. 2,5 milliards d'euros déposés sur la table pour développer la ville d'Eindhoven. Zidane Azouzi est avec nous. Bonsoir Zidane.
Bonsoir François.
Alors l'objectif est clair, hein, s'assurer que ASML, spécialiste des semi-conducteurs, ne délocalise pas ses activités à l'étranger.
Tout à fait, opération Beethoven, voici le nom du plan dévoilé par les Pays-Bas afin de maintenir le géant ASML chez lui. Il faut dire que depuis les dernières élections législatives et la victoire de l'extrême droite qui ont inquiété ASML, le leader du parti avait promis de réduire drastiquement l'immigration. Très vite, ASML avait fait part de son inquiétude de ne plus pouvoir recourir à la main-d'œuvre étrangère. Le groupe ASML, devenu un symbole de l'industrie européenne, a même menacé de quitter le pays. La plus grande entreprise technologique d'Europe emploie 42 000 salariés dans le monde. Plus de la moitié sont basés dans son immense complexe dans la banlieue d'Eindhoven et une part importante d'entre elles vient de l'étranger. Les 2,5 milliards d'euros annoncés serviront à améliorer le logement, les transports ou encore l'éducation dans la région d'Eindhoven. L'objectif est clair, rendre plus attractive la vie et le travail dans la ville où ASML possède son siège. Plus globalement, les multinationales basées aux Pays-Bas s'inquiètent de la suppression progressive d'un allègement fiscal en faveur des talents expatriés. Il y a 6 ans déjà, pour des raisons fiscales cette fois, c'était Shell et Unilever qui avaient décidé de quitter Amsterdam pour le siège social à Londres. Aujourd'hui, le gouvernement néerlandais veut éviter que l'histoire se répète avec ASML.
Voilà, il met le paquet, hein, tu le disais Zidane, avec 2 milliards et demi sur la table. Merci beaucoup, c'était Zidane Azouzi. Alors, on peut peut-être expliquer ce que fait ASML, parce que c'est assez complexe hein, ce qu'ils font. En fait, ils font de la photolithographie, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des machines qui sont des graveurs en fait, de processeurs. Hein. C'est capital. Il y a très peu de gens qui savent faire ce qu'ils font, je crois.
Hein. En fait, ouais, il y a deux types de machines que fait ASML. Il y a ce qu'on appelle les ultraviolets profonds, donc DUV en anglais, qui est une technologie que maîtrisent d'autres acteurs. Il y a une autre technologie qui s'appelle EUV, qui est ultraviolet extrême, ASML est la seule à maîtriser cette technologie.
Qui permet de graver encore plus petit. Si on arrive à avoir des trucs qui font quelques nanomètres, c'est grâce à eux.
Sous les 5 nanomètres, généralement, il faut faire de l'EUV. Et ASML, c'est le seul à savoir le faire. Et donc, TSMC, qui est donc le fondeur, ou Samsung, ou d'autres, ou Intel, quand ils veulent graver à moins de 5 nanomètres, doivent acheter des machines d'ASML. Et donc, c'est une entreprise qui a vu son chiffre d'affaires exploser, qui a sa capitalisation boursière qui a explosé aussi, et qui veut doubler ses capacités de production dans les 3 ans qui arrivent. Le problème, c'est que les Pays-Bas, c'est un petit pays, que Eindhoven, donc Veldhoven, c'est la ville où ils sont installés, il n'y a pas de logement, il y a des problèmes de transport, ils se plaignent que l'électricité est trop chère aux Pays-Bas, et c'est pour ça qu'en fait, ils ont menacé, pas de déménager aux Pays-Bas, mais d'installer des nouvelles usines à l'étranger, notamment en France. Mmh. On ne sait pas si c'était vraiment une vraie menace ou c'était plus une tactique pour négocier, sachant qu'aux Pays-Bas, on a un gouvernement un peu de transition parce qu'il y a des élections législatives qui ont eu lieu en novembre, qu'il n'y a toujours pas le gouvernement de coalition qui a été mis en place. Donc, les mesures qui ont été annoncées, c'est le gouvernement de transition qui les a annoncées. Est-ce qu'elles perduront ou pas après ? Mais voilà, en tout cas, ils ont joué de leur position de force pour obtenir ce qu'ils voulaient et ils l'ont obtenu.
Intéressant, hein, cette boîte qui a un savoir-faire unique. Finalement, là, on rendait compte qu'on arrive, grâce à eux, à graver l'infiniment petit. On arrive à faire des choses à 2 nanomètres, ce qui est incroyable. Et chaque année, ils arrivent à réduire par 2, en fait, la taille de leurs composants. C'est incroyable. Il faut savoir que cette boîte existe depuis les années 80. Elle a été cofondée par Philips, qui après s'en est séparé un petit peu plus tard. Donc, un beau destin. Est-ce que ASML aurait pu arriver en France, finalement ? Parce que ce qui est intéressant, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que le futur directeur d'ASML va être français, je crois. Hein.
Christophe Fouquet, je crois.
Christophe Fouquet, voilà. Mmh. Messieurs, ASML ?
Tu veux y aller comme tu veux ? Vas-y. Ok. Alors, est-ce que ça aurait pu arriver en France ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des yeux. Ce qui est certain, c'est que c'est vraiment bien d'avoir ça en Europe, ça c'est sûr. Et ce qui est assez passionnant, au-delà de la capacité de graver aussi petit, c'est cette, cette guerre géopolitique qui est en train de se mettre en place, de qui est-ce qui a chaque maillon de la chaîne. On vient de parler juste avant de la partie plutôt algorithmie avec les LLM. Là, on parle de vraiment la partie hardware et où est-ce que ça se passe. Et c'est assez rigolo parce qu'au final, tu vois, et on en parlait, je crois, tout à l'heure, il y a Intel qui essaie de revenir dans la course. Il y a Samsung, TSMC qui sont là côté Asie. Et on a effectivement la chance d'avoir ASML en Europe. Et là, tout le monde est en train de se battre pour prendre des positions, parce qu'on sait très bien que ce sont les marchés de demain, en fait, hein, et qui ne vont pas décroître. Il y a des taux de croissance qui sont prévus dans les années à venir. Donc c'est pour ça que tout le monde se les arrache. Et je trouve ça intéressant que ce soit en Europe, pour une fois. Oui.
Alexandre.
Et en fait, il y a quelques années, personne ne connaissait ASML.
Ouais.
Et là, tout le monde sait que c'est super important, avec le contexte géopolitique. On est fiers que ce soit européen. Tout d'un coup, on les a découverts. Et c'est impressionnant de voir, avec les tensions géopolitiques et l'importance de l'IA, comment des boîtes comme ça sont devenues tout d'un coup ultra stratégiques, alors que c'était juste une filiale de Philips. Et c'est pareil pour TSMC, où on sait que dans le jeu entre la Chine, Taïwan, les US, un des enjeux, c'est TSMC, parce qu'il y a des choses que seul TSMC sait faire aujourd'hui, et que s'il y avait des problèmes à Taïwan, ce serait un gros problème pour l'Occident, en fait, de perdre TSMC. Donc c'est assez intéressant de voir comment la géopolitique et l'IA jouent dans ces jeux-là.
Comment ça se passe, en fait? On a des designers de puces qui travaillent de leur côté, qui après donnent les plans de ces puces-là à ASML.
Non, ASML fait juste la machine.
Oui, mais cette machine,
est envoyée au fondeur, en fait.
D'accord.
C'est ASML qui grave. ASML ne grave pas les puces.
ARM fait les plans. Enfin, beaucoup des puces sont conçues par ARM,
oui,
qui licencie en fait les plans. Et voilà, il y a TSMC, enfin au donneur d'ordre qui demande à TSMC de fabriquer ses puces. Et TSMC a besoin d'acheter la machine.
Cette machine, en fait, elle est faite sur mesure pour une typologie de puces.
Non.
Non, même pas.
Il y a plusieurs systèmes.
D'accord.
En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est des machines qui sont très lourdes, qui sont très grandes. Par exemple, la dernière machine qu'ils ont envoyée là, chez Intel en janvier, c'est une nouvelle génération, elle fait 150 tonnes. 350 millions d'euros, 6 mois pour l'installer. Donc elle est arrivée en janvier chez Intel dans l'Oregon. Elle ne sera pas opérationnelle avant la fin de l'année. Et elle commencera à graver en fin 2025. Donc c'est des machines. Alors après, ils envoient des ingénieurs pour les mettre en place. Donc c'est des processus qui prennent beaucoup de temps. Et c'est pour ça que construire une usine de semi-conducteurs, c'est des milliards et des milliards de dollars.
Parce qu'il en faut combien, des machines comme ça, dans une
beaucoup,
usine?
Oui.
Il en faut beaucoup, ouais, c'est clair.
Et juste pour revenir sur ta question, est-ce qu'ils pouvaient venir en France?
Oui.
Je pense que en fait, la vraie question, et ce qui aurait été compliqué pour eux, c'est que pour faire une machine, il y a 5000 sous-traitants. ASML a 5000 sous-traitants. Et donc on imagine que 5000 sous-traitants qui sont basés pour fournir leur puce à Eindhoven aux Pays-Bas pour finir leurs produits, aller en France, c'est compliqué, en fait. Et c'est pour ça aussi que...
Après, c'est pas très loin, mais malgré tout...
C'est pas très loin, mais ça complique les choses. Donc, je pense que, moi, personnellement, je pense que c'était plus une tactique pour essayer d'obtenir ce qu'ils voulaient. Et peut-être que s'ils n'avaient pas obtenu, ils auraient vraiment pensé à déménager.
On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'NVIDIA, mais finalement, quand on remonte la chaîne de valeur, ASML est au-dessus d'NVIDIA, finalement, parce que sans eux, NVIDIA aurait du mal à fabriquer ses puces, non?
Alors, il n'y a pas au-dessus, en fait. Sans NVIDIA, enfin, il n'y a pas de ASML aussi. Donc,
on voit que tout ça
est interconnecté, tu vois.
Ouais.
Et on en avait parlé, d'ailleurs, une fois. Oui. Tu sais, quand il y avait les États-Unis qui voulaient, qui ont fait, d'ailleurs, un ban sur la Chine pour éviter qu'NVIDIA puisse envoyer des puces H100. T'as la Chine quand même, et notamment Taïwan aussi, qui dit t'es gentil, mais il y a des composants qui sont faits chez nous. Donc, et c'est là où tu vois ce niveau stratégique qu'on ne voyait pas avant, hyper intéressant. Parce que tu te rends bien compte que tout est interconnecté aujourd'hui et qu'il n'y a pas un hardware qui soit fait juste à un endroit dans un seul pays. Donc tout ça est hyper. Et ce que tu disais sur Taïwan est tellement vrai. C'est aussi pour ça que, notamment, Sam Altman d'OpenAI est en train de se poser des questions sur comment je vais faire mes puces de demain. Parce qu'en effet, si Taïwan tombe sous la Chine, ben forcément, ça va être plus compliqué d'exporter des puces aux États-Unis.
Et l'un des clients, forcément... Oui, pardon.
Non, juste sur les tensions géopolitiques, ASML, donc je parlais tout à l'heure, il y avait les machines EUV. qui ne sont interdits d'exportation en Chine. Donc ça, c'est les Pays-Bas qui ont décidé ça il y a plusieurs années. Et sous la pression
des... C'est pas eux qui ont décidé, je pense que c'est
les États-Unis. Non, ça, c'est les États-Unis.
Oui.
C'est les Pays-Bas. Ça fait des années que, depuis que la machine existe, elle n'a jamais pu être exportée en Chine.
C'était pas sous l'ordre des États-Unis,
en fait. Et en fait, là, les États-Unis, avec la pression des États-Unis ces derniers mois, maintenant, c'est les machines DUV, donc les DUV, donc les plus puissants, qui ne peuvent plus être exportées non plus en Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en Chine, ils ont quand même ces machines. Et,
comment ils les ont alors?
Mais ils les ont parce qu'ils avaient déjà commandé avant.
Ah oui, d'accord.
Et Huawei, qui a réussi à graver en 5 nanomètres pour son téléphone 5G, a utilisé, a détourné des machines d'ASML qui normalement ne peuvent pas graver en 5 nanomètres, mais ils ont utilisé une nouvelle technique avec SMIC, donc le fondeur chinois qui fait ça.
Ils les ont pimpés, quoi.
Et exactement, pour pouvoir graver en 5 nanomètres.
Incroyable.
Ouais, mais c'est comme quand ils avaient acheté des puces, des chipsets Nvidia et qu'ils commençaient à décortiquer.
Ouais, ou je sais pas, moi j'avais comme si un routeur Wi-Fi qui faisait 10 mètres de portée, ben je rajoute des antennes et je t'en fais 50 mètres, quoi. C'est un peu ça, c'est du bricolage. Mais c'est à saluer quand même, parce que mine de rien, il faut de l'ingéniosité et du talent pour arriver à modifier toutes ces machines, en fait. Donc c'est quand même intéressant. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question pendant longtemps, comment Huawei avait pu graver cette puce 5G en, je crois que c'était 5 nanomètres.
5 nanomètres, exactement.
Voilà, c'est ça. Alors que techniquement, ils n'avaient pas la possibilité technique de le faire.
Avec les DUV, tu peux le faire si vraiment tu utilises des méthodes. Alors, après, les spécialistes disent que c'est moins, t'as des déchets plus importants.
Parce que je crois qu'il faut plusieurs couches, je crois, non? Enfin, c'est un truc comme
ouais,
ça.
Et du coup, c'est pour ça qu'on utilise le UV qui est plus
dans le dur, là, les amis.
On va faire les auditeurs si on continue.
Là, on est dans le silicium, je vous dis pas.
Justement, j'allais dire, le dernier paramètre de l'équation, c'est les matériaux et notamment les terres rares. Et là, et là aussi, on a un problème parce que beaucoup sont soit en Chine, soit en Afrique. Et on a un problème géopolitique aussi pour garder l'accès à ces terres rares qui sont absolument nécessaires pour faire en dessous la couche la plus basse. C'est vraiment les
si on n'a pas ces terres rares, on n'arrive pas à faire
des
plaques de silicium.
Et c'est là que tu retrouves les Chinois en Afrique. Et là, tu te dis, ils ont pensé au truc avant.
Ouais, c'est incroyable.
C'est fou.
Tiens, puisqu'on est dans les processeurs, on va remonter un petit peu d'un niveau, mais rester chez Intel quand même, parce que bon, voilà, hein, Intel est aussi un client d'ASML, forcément. Et Intel qui a déclaré vouloir bientôt exécuter certaines tâches de copilote. Vous le savez, donc le système de Microsoft. Parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte. Vous avez vu les nouveaux PC là, qui arrivent avec la touche copilote? C'est quand même un truc de fou.
Alors, obligatoire.
Ouais, c'est ça, vas-y, parce que bon, c'est très drôle comme truc.
Mais non, mais c'est un truc de dingue quand même.
Oui, non.
Raconte l'histoire.
Non, mais en fait, voilà, donc il y a une nouvelle appellation qui va s'appeler AI PC, voilà, donc les PC IA, qui est donc une appellation qui est décernée par Microsoft. Et pour l'obtenir, il faut qu'il y ait une touche Copilot, donc utiliser, et un peu comme la touche Windows que vous avez sur les PC Windows. Et en fait, les constructeurs veulent avoir cette appellation en PCIA parce qu'ils se disent que ça va nous permettre de doper les ventes et des gens vont pouvoir.
Sur un marché qui est plutôt en berne, on va dire.
Sur un marché qui est même plus qu'en berne, c'est catastrophique. Et donc, sur la touche Copilot, à mon avis, ça va être faire tiquer quand même, les concurrents de Microsoft et deux, les autorités de la concurrence.
Bien sûr.
On est quand même sur un. Voilà, on impose un peu la solution de Microsoft.
Mais les premières touches Copilot arrivent, hein? Ça arrive chez, je crois, Lenovo, enfin voilà.
Ouais, mais je sais pas si vous avez vu le jour, j'ai l'impression que c'est le film, c'est le jour de la marmotte, en fait. On a déjà vu ce truc.
Tu l'as dit, c'est la
touche Microsoft, ouais. Enfin, la touche Windows qui est arrivée avec Windows 95.
C'est 90.
Et derrière, il y a une licence obligatoire pour tout le monde. On l'a déjà vu, en fait, tu vois, c'est rigolo.
Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que donc, les constructeurs de PC sont on va dire, on leur pousse à installer cette touche Copilot, mais j'ai l'impression que Microsoft aussi pousse Intel à booster toutes ses puces à l'intelligence artificielle, parce que l'idée derrière tout ça, c'est que aujourd'hui Copilot, c'est dans le cloud, c'est-à-dire que vous faites votre requête, vous avez le Wi-Fi, tout ça monte dans les serveurs et ça redescend, un peu comme ChatGPT. Sauf que Intel aimerait que une partie de toute cette intelligence soit dans l'ordi. D'où ce PC AI que tu expliquais, mais Intel travaille là-dessus, je crois. Hein. C'est pas encore le cas, mais ils aimeraient qu'une partie, en tous les cas, de toutes ces fonctions intelligence artificielle soit dans la puce.
Bah, Intel, leur intérêt, c'est de vendre des puces qui sont des puces plus chères aux constructeurs de PC. Microsoft, l'intérêt, c'est que si une partie de l'IA tourne en local, et ben tourne pas dans le cloud, ça fait des coûts d'inférence inférieurs. Et aujourd'hui, ça coûte très cher d'avoir un service d'IA à Copilot. Ça coûte très cher à Microsoft, même s'ils vendent $30 par mois. Et donc tout le monde a intérêt à ce que l'IA soit faite en local. Google le fait aujourd'hui avec Gemini Nano que vous pouvez sur les smartphones. Donc voilà, il y a une convergence d'intérêts pour que l'IA soit de plus en plus en local, mais ça sera juste des tâches assez limitées pour l'instant. parce qu'il y a besoin de beaucoup de puissance informatique pour les tâches les plus importantes, et ça, forcément, ça passera dans le cloud.
Ça veut dire qu'Intel sait faire quand même des puces pour l'IA. On en doutait.
Ah, mais là, c'est pas des.
En fait, ils ont raté, ce que je dis, mais bon.
Non, mais ils ont raté le coche des serveurs et ils essaient de se rattraper en se disant, si jamais ça devait passer en local, on pourrait reprendre dessus. Sur ce nouveau terrain, parce qu'on a, on a perdu la bataille précédente. Mais après, la perspective, quand même, s'il y a, Microsoft dit qu'il y a 1,4 milliard de PC sous Windows dans le monde, et ça baisse, alors qu'il y a déjà 6 milliards de devices sur Android, et ça monte très vite. Et donc, je ne pense pas que, à terme, le marché du PC sous Windows soit. Enfin, ça va. Pour moi, ça va pas augmenter.
Ça va pas révolutionner, en
ça
fait.
Ça va pas aussi. C'est juste ma.
Ouais,
c'est
oui, clair. Enfin, après, ils tirent leur épingle du jeu, quand même. Donc, entre zéro et un peu, ils sont contents de prendre un peu. C'est vrai que, comme tu dis, ils avaient raté le coche. Et là, tu reformes le couple Wintel de l'époque, hein, donc Windows et Intel. Et t'es à nouveau dans un truc où. C'est une espèce de bundle pour tout le monde et tout le monde s'y retrouve entre Intel et Microsoft. Enfin,
ce qu'il faut aussi préciser, c'est que pour l'instant, la plupart des PC, Windows sont sur Intel ou AMD. Mais l'année prochaine, enfin même plutôt cette année même, il va y avoir des premiers PC sous ARM avec Qualcomm, avec Nvidia qui vont faire des nouveaux processeurs pour les PC. Et donc Intel doit aussi réagir parce que si Nvidia arrive avec un processeur ARM en disant moi j'ai un processeur ARM qui permet de faire de l'IA en local, eh bien l'Intel va passer à la trappe en fait. Et donc pour Intel, il y a aussi un peu l'urgence parce que le PC, ça reste encore le gros du métier d'Intel, et donc il faut vraiment, ils peuvent pas rater ça, quoi. Sinon c'est.
Ouais. Et puis derrière ça, il y a aussi Apple qui a communiqué, je sais pas si vous avez vu, sur son processeur M3 là qui vient d'arriver sur les nouveaux Mac, les MacBook Air, qui sont ready IA, quoi. C'est-à-dire que
il était déjà faire, sur le MacBook Pro, tu l'as déjà en fait. Enfin, c'est juste sur le MacBook Air.
Mais... C'est le MacBook Air parce que c'est le M3 en fait. C'est
oui, mais tu vois, moi sur mon MacBook Pro, j'ai un M3 et j'ai justement pris un M3 parce qu'en fait,
tu sais que les instructions IA seront.
Oui, parce qu'en fait, tu as cette couche qu'ils sont en train de développer chez Intel, qu'ils ont déjà développée sur la puce Apple, qui est une sorte de, on va dire, CPU pour faire simple. Avec des réseaux de neurones, juste pour pouvoir faire de l'IA et que ce soit plus performant. Et donc ça, ils l'avaient déjà anticipé, Apple. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'ils avaient anticipé la puce, et ils n'ont pas anticipé l'autre partie LLM. Donc là, ils sont en train de ramer pour ramener la partie IA. Mais eux, au moins, ils ont la puce. Tu vois
Et pendant ce temps, Nvidia remplit des stades avec ses conventions qui cartonnent. Hein. Hier encore, j'avais Serge Palaric, le patron Europe de Nvidia, qui nous expliquait que c'était, enfin voilà, que c'était la fiesta. Je crois que c'était à San José. C'était un carton phénoménal.